Donc c'est bon, t'as mis le chat de côté, t'es tranquille?
Ouais, bah ouais.
Bon. Et t'as joué un petit peu, là, pour le nouvel an?
Ouais, bah on a fini la campagne de Magikarta, ça y est.
Ah, ça y est, tu l'as terminée, super. Moi, tu, ouais. tu pourras me raconter ça un petit peu, maintenant que t'as été au bout. On pourra en parler ouvertement. Très bien.
Ouais, c'était chouette.
Et t'as vu qu'aujourd'hui, il y avait eu la sélection des Diamants d'Or qui était sortie?
Eh oui, et j'ai vu que je n'ai joué à rien de tous ces jeux-là.
Et moi non plus, on va avoir du boulot.
Salut les filles! Ça va?
Ah bah tiens, salut Lana!
Ah bah tiens, quand on parle du loup! Salut Lana!
Qu'est-ce qu'il y a?
Bah, on parlait de la sélection des Diamants d'Or!
Ah oui! Ouais, c'est sorti. Et je sais pas si vous avez vu, il y en a un super que j'ai pu essayer.
Ah ouais? T'as joué à quoi?
Eh bien, j'ai joué à Keyside. Keyside, c'est un de ceux qui a été sélectionné. Ça fait partie de la série Keyflower, Keeper, Keyflow. Et c'est un jeu qui m'a fait un effet waouh. Ça faisait longtemps que ça ne m'avait pas fait ça. Basiquement, hein, c'est un jeu de placement d'ouvriers qui va se jouer en 3 manches. Tu as un plateau personnel où tu peux progresser sur des pistes et déclencher des actions. Et tu as un plateau commun où il y a des actions qui sont représentées par des ports. Et ces emplacements, ils servent pour les actions, mais ils servent également pour le scoring. Mais ce qui est marrant, c'est que le scoring, il n'est pas du tout en lien avec l'action. Et du coup, c'est ce que j'aime bien dans les jeux de gestion, c'est que tu as des dilemmes, tu as des choix à faire sur ton positionnement. Soit l'action m'intéresse, mais pas le scoring. Donc si je veux y aller, bah, quand est-ce que je veux y aller? À quel moment je dois en partir? Ou à l'inverse, c'est le scoring qui m'intéresse, mais l'action pas du tout. Et du coup, il va falloir choisir quand je vais sacrifier mes ouvriers pour prendre position sur ce scoring. Mais du coup, ils feront pas une action intéressante pour moi. Et puis, combien j'en mets? Parce que plus t'en mets, plus tu peux scorer à cet endroit-là. Enfin, s'il reste de la place, hein, parce que les places sont limitées. En fait, t'as un aspect course dans ces ports. Premier arrivé, premier servi. C'est un jeu qui va se jouer avec des dés. Alors, tu as des dés plein de couleurs. Hein. Alors, le plateau est très vert, mais les dés sont de toutes les couleurs.
Ah
ouais, c'est flashy. Hein. C'est un peu les années 80.
Est-ce qu'on les lance, les dés? Dis-moi qu'on les lance. Il y a trop de jeux où on ne lance pas nos dés en ce moment.
Non. Oh, tu vas choisir la valeur du dé par couleur. Il te faut ta 6 dés. Eh ben, il te faut un dé sur chaque valeur et sur chacune du coup des couleurs. Mais non, tu ne vas pas les lancer. Mais c'est bien toi qui choisis. Et du coup, ces dés-là, soit ils sont devant toi, et t'en joues un sur le plateau, sur ton plateau perso, et ça va te faire un effet immédiat, ou sur le plateau commun, et là tu vas chercher plutôt à programmer ce que t'espères faire. Mais si t'as plus de dés devant toi, bah là tu actives les ports où t'es présent, et tu vas déclencher une action que t'as programmée. Et en fait, le jeu est très malin à ce niveau-là, puisque tu crées une désynchronisation entre les joueurs. Mmh. T'as une forte notion de tempo hein, dans ce jeu, clairement. En fait, on a la possibilité de poser des dés dans un port quand un joueur utilise un dé de la même couleur, la couleur est importante, mais avec une valeur plus forte. D'où l'intérêt du choix des valeurs dont on parlait. Et du coup, t'es pas obligé de rajouter des dés dans des ports, mais t'as le côté opportuniste parce que tu vas du coup te désynchroniser par rapport aux autres et déclencher les actions des ports avant les autres. Voilà, alors, encore des choix hyper stratégiques à faire. Est-ce que j'utilise ce dé en accompagnant le joueur principal, mais j'ai pas tous les avantages du joueur actif, ou alors je profite de cette occasion pour passer plus rapidement à la phase d'activation des ports. Mais en fait, faut calculer, parce que les dés qui sont posés dans le port, ils vont modifier ce qu'on y gagne. Donc si lui, il a mis un gros dé, mais que toi, tu rajoutes un gros dé, ce qui peut être fait va être moins intéressant. Enfin, ça te fait encore une multitude de réflexions à avoir. Et c'est pas tout. Quand tu vas bénéficier de cette désynchronisation avec les autres joueurs, bah tu vas pouvoir un petit peu les embêter. Alors, c'est pas ce que je préfère dans les jeux. Moi, j'aime pas ce côté attaque. Mais là, c'est pas trop souvent. C'est encore un petit peu un côté opportuniste. Mais clairement, quand je suis en phase d'activation des actions, je vais par exemple pouvoir déclencher une action pour laquelle mon adversaire, il n'est pas prêt. Il n'a pas encore les ressources nécessaires pour la réaliser. Par exemple, pour 3 pierres, tu peux faire un bâtiment. Ah bah t'avais pas eu le temps de déclencher l'action de récupération des pierres? Eh bah dommage, moi je vais pouvoir en profiter.
Et t'en profites et ça devient bloquant pour l'autre ou pas?
Bah, il peut pas faire cette action-là.
Ah, il pourra pas la faire.
Il a programmé des trucs et voilà, son plan se déroule pas comme il l'avait exactement prévu. il pourra faire d'autres choses. Mais voilà, sur trois manches, quand il y a une action que tu n'arrives pas à faire, tu grognes un peu.
Eh oui.
Il y a une vraie interaction à ce niveau-là. Ce tempo différent entre les joueurs crée quelque chose de très très fort. Et tu vas vraiment réfléchir à dans quel sens je veux les faire pour être sûr de réussir à faire l'ensemble de ce que j'ai programmé. Enfin, non seulement ouais, la gestion de ressources, la programmation et la pose d'ouvriers. T'as vraiment tout ça qui se mixe sur le plateau. Ce qui est génial, c'est que bah, tu t'ennuies jamais. En fait, tout le monde va jouer, mais tout le temps. Tu vas pas faire, c'est pas un jeu de vaisselle, hein, comme on dit. En fait, même quand c'est pas ton tour, t'es tout le temps concerné, puisque tu peux utiliser des dés si la valeur est un peu plus faible. Donc, tu joues tout le temps. Faut être bien concentré, réfléchir à ce que tu veux vraiment faire, soit sur ton plateau, à toi, pour monter sur tes pistes, qui peuvent te donner ouais, des bonus, ou aller chercher du scoring, ou alors sur le plateau, parce que c'est là que tout va se déclencher. Et essayer de profiter un petit peu du placement des autres. Bon, l'inconvénient dans ce jeu-là, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le côté graphique. Elodie, toi qui aimes les illustrations, celui-là, il te ferait un peu grincer des dents. Je sais pas si tu connais, c'est illustré par Vicky Dalton. C'est la même personne qui avait fait les précédents Keyflower, etc. Mais enfin, c'est très vert, marron, blanc, et avec en plus les pistes et les dés de toutes les couleurs. Hein. Donc, bon.
C'est vrai que c'est très coloré. Là, je suis en train de regarder. Très coloré, oui.
Ouais. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est daltonien friendly, parce que je ne crois pas qu'il y ait des marques sur les dés.
Ah,
non,
oui.
Je ne pense pas. Ouais, c'est dommage.
Parce que les dés, c'est des couleurs classiques.
Ouais, ouais. Du jaune, du rouge, du orange, du vert, du bleu et je ne sais plus, du violet. Enfin, tu as les six. Okay. Six couleurs de base. T'as l'arc-en-ciel vraiment sur le plateau. Hein. Mais plateau tout vert. Hein.
Et tu ressens quand même une explosivité là, dans le jeu au cours de ta partie. Tu sens que ça monte en puissance ou pas trop?
Ça monte en puissance puisque tu laisses tes petits bonhommes. Tu vas pouvoir les déplacer, mais tu vas en avoir de plus en plus sur le plateau que tu peux déplacer, aller positionner là où ça t'intéresse le plus. Et du coup, ouais, tu sens une vraie montée, tu sens le côté opportuniste sans arrêt. T'as une pression, je trouve, enfin une pression hyper agréable. Moi, j'adore ce côté j'essaye de tout voir pour rien louper et prendre toutes les opportunités possibles. Et des fois, des fois, ça marchera pas pour moi. Tant pis. Mais, un effet waouh de fou. Je suis contente, très, très, très contente qu'il soit dans la sélection Diamant d'Or.
Ok.
Et vous, c'était les vacances, là? Vous avez joué à quoi?
Eh bien, moi, j'ai sorti pour la première fois, parce que je l'ai acquis il n'y a pas longtemps, le jeu La Crypte de la Créature de Friedman Friese. Donc, tu parlais de jeu vert, bah celui-là, voilà, il est vert.
Mais c'est pas tout jeune, ça?
Non, sortie, je pense, en Allemagne en 2003, et la version que j'ai, c'est 2012, c'est la version de Philosophia, avec une boîte qui fait très pulp. Vraiment vieux nanar des années 60. La couve est magnifique. J'avoue que je l'ai trouvé sur la braderie de ma boutique. Vraiment là-dessus, sur la couve et le nom de l'auteur. Et franchement, on a enchaîné deux parties hier, ce qui est assez rare chez nous. Et j'ai trouvé ça vraiment top. Donc c'est un jeu de survie, je dirais. On a tous trois gugus dans la crypte de la créature. Et le but du jeu, ça va être de les faire sortir. Et on a cette créature type Frankenstein. Je vais vous lire le lore du truc, parce que je trouve qu'il est incroyablement bien écrit. Et je sais, alors nous, c'est avec des C. J'imagine en VF, enfin en anglais, c'est Fearful Floor. Je ne sais pas ce que c'était en allemand, c'était sûrement IDF. Donc, un conte captivant. Courage en main, vous avez découvert les quatre reliques dans une caverne canadienne. Vous apportez les reliques au comte Karloff en Croatie pour délivrer la fascinante fée Fabula. Mais Karloff a une créature à contenter et quel festin vous représentez. Malheur et malchance, vous tombez dans le froid affolant d'une crypte où crépitent les cris de cette cruelle créature qui chérit particulièrement les comparses comestibles qui osent l'accabler de leur présence. Finirez-vous comme canapé ou le comte Karloff mettra-t-il fin à votre conte? C'est beau quand même.
Oui.
Donc j'ai lu ça, je me suis dit, oh, ça sent bon cette histoire. Donc voilà, faut qu'on fasse sortir nos gugus. Donc on a des jetons ronds, biface, donc avec leurs points de déplacement. Donc on va faire une première phase où on fait bouger nos personnages. qui vont avoir 7 points de déplacement en tout sur leurs deux faces. Donc, par exemple, moi, j'avais le petit chien, il avait un côté 1, un côté 6. Donc, un coup, je pouvais le déplacer d'une case, un coup de 6 cases. Et autant dire que j'étais contente quand il pouvait avoir ses 6 cases, parce que sinon, il risquait fortement de se retrouver sur le chemin de la créature. Donc, on fait bouger tous nos personnages. On essaye de les planquer derrière des cailloux, des piliers, là, pour que la créature ne nous voit pas. Elle est pas très maligne, cette créature. Elle voit personne derrière elle, et si vous êtes caché derrière un pilier, elle vous voit pas. Bon, elle doit pas avoir d'odorat.
Si elle te voit pas, elle vient pas vers toi, du coup.
Si elle te voit pas, elle vient pas vers toi. Donc le truc, c'est d'anticiper comment va se déplacer ensuite la créature. En gros, elle avance d'une case, elle regarde devant elle, elle regarde à droite, elle regarde à gauche. Si elle voit quelqu'un, elle se tourne et elle continue son mouvement, et ainsi de suite. Puis en allant bouffer les personnages les plus proches d'elle.
Mais elle avance de combien de cases par tour?
Et ben ça, c'est aléatoire, c'est des tirages de tombes qui vont te dire. En gros, elle avance entre 5 et 10 cases, ou elle a le croc et le double croc, où là, elle va avancer jusqu'à ce qu'elle ait bouffé un ou deux personnages.
Oh. Ah ouais, d'accord.
Et quand elle sort du plateau, ouais. Donc là, quand il y a le croc-croc qui sort, elle a « Eh merde !» Parce qu'elle peut avancer jusqu'à 20 cases avec le croc-croc.
Ouah. Ah oui, d'accord.
Autant dire que forcément, elle te bouffe, quoi. Donc tout le truc, c'est d'arriver à laisser l'autre sur le chemin de la créature avant toi, pour que de préférence elle aille bouffer les autres personnages et pas les tiens.
Ouais, c'est pas du tout coopératif, on est d'accord.
Pas du tout, pas du tout. Ou d'aller pousser, est-ce qu'on peut pousser les pierres? Et c'est ça tout le sel du jeu, c'est que tu vas aller pousser la... Tu vois, à un moment j'étais planquée derrière une pierre, j'étais bien, Michel arrive et boum, il me bouge ma pierre et du coup mon personnage se trouve...
En
à la vue,
de
quoi.
Mire de la créature.
Oh, c'était tellement méchant, ça. Ouais, c'était tellement pas gentil quand il m'a fait ça. Et j'avais pas anticipé qu'il pouvait faire ça. Donc, c'est un jeu qui peut... Alors, moi, je l'ai joué vraiment YOLO, comme je joue tout le temps. C'est-à-dire, j'aime pas calculer pendant des heures mes coups. Je pense que c'est un jeu qui peut vraiment t'amener à l'analyse paralysis. Si tu veux prendre en compte tous les paramètres. Ça m'a fait penser un peu à Mr. Jack, autre vieux jeu.
Oui.
Que j'adore. Oui. Avec ce côté de déplacement des personnages, de réfléchir à comment tous les personnages peuvent se déplacer, etc. Le matos aussi y ressemble, avec ses jetons en bois double face, là. Et un peu dans les sensations de jeu. Alors, là, on est sur un truc où on peut jouer très pulp, c'est-à-dire jouer le nanar d'horreur. Puis en plus, quand on bouge la créature, en général, on fait...
Ah oui.
Évidemment. Bah ouais, tu fais le bruitage, sinon c'est pas drôle. Et puis quand elle croque les gens, nom 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 nom, nom 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 nom. Donc autant nous dire, hier elle a fait nom 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 beaucoup. Parce qu'on a la première partie, on a vraiment été très mauvais, ils sont quasiment tous fait bouffer. On a été un peu meilleurs à la deuxième. Donc c'est un jeu où tout le monde peut perdre aussi. Et la créature peut gagner si elle bouffe tout le monde.
Ah oui, si tout le monde se fait bouffer, c'est cuit. Ouais.
Voilà, parce que t'as deux phases de 7 mouvements, donc de 7 manches. La première phase, tes personnages, ils sont remis dehors du plateau, ils peuvent re-rentrer. Mais à la deuxième phase, quand ils sont bouffés, ils sont bouffés.
Ils sont complètement bêtes, ces personnages. Ils savent bien qu'il y a un monstre à l'intérieur. Ne rentrez pas.
Oui, mais la seule façon, c'est qu'il faut qu'ils sortent de ce fichu truc-là. Sinon, ils vont finir comme des raisins secs dans un coin. C'est pas non plus une fin terrible. Hein. Donc ouais, à la fois cette pression-là, ce côté presque jeu abstrait, le seul hasard, c'est... combien la créature va pouvoir se déplacer, sachant que, c'est ce que je vous ai dit, il y a une tuile qui fait qu'elle se déplace de 5, 2 de 7, 2 de 8, 1 de 10, et puis le croc qui est double croc.
Ouais, donc il a quand même de gros déplacements, ouais.
Ah ouais, ouais, quand tu sors la 10, tu fais hop, 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 hop. Hier, elle nous en a bouffé 4 en un tour, quoi.
Ah oui.
Parce que quand elle sort d'un coin du plateau, elle re-rentre à un autre endroit.
D'accord. Ouais, ouais.
C'est un jeu qui se joue à beaucoup, ça.
Entre 2 et 7.
Ah ouais.
Ah bah c'est bien, parce qu'à 7, peut-être que t'as un petit peu plus de chance de lâcher les autres à la créature et de
et tout barrer. J'imagine même pas le chaos à 7.
Ouais, tu calcules, j'imagine moi, tu te caches pas. Derrière les autres.
Non, là, voilà, c'est ça. Et tu
vas
pries,
pouvoir
et
te
tu serres les fesses.
Bah,
est-ce que tu peux pas t'arrêter sur une case, où il y a un personnage, tu peux pas pousser une pierre s'il y a quelqu'un derrière.
Ah oui.
Elle, par
oui,
contre,
donc à
elle
7,
bourre tout, elle, si elle t'est citée derrière une pierre, elle pousse la pierre. Tu vois, si elle voit personne, elle continue tout droit. Donc, elle pousse la pierre, elle te pousse avec. Puis, si tu finis contre un mur, t'es écrapouillé contre le mur et tu meurs aussi. Donc, il y a ça aussi à prendre en compte. Parce que
bon,
des fois,
ça m'a l'air d'être bien
la
rigolo,
pierre,
ce jeu.
Mmh. Ouais.
À ressortir pour Halloween.
Tout à fait. Bah, tu vois, nous, pour Noël, c'était bien aussi.
Voilà. C'était une thématique un peu différente, écoute.
Voilà.
Bah, ça va faire plaisir à Kurt, qui adore Friedman Freeze, dis donc.
Eh ben, moi, je crois que c'est un auteur que j'aime de plus en plus. Hein. chaque découverte de ces jeux, même les ceux que j'ai trouvés moins bons, je trouve qu'il y a toujours quelque chose, quoi. Puis là, il y a en plus tous les clins d'œil. T'as une famille de jetons, c'est la famille Adam, ça m'a vraiment fait rigoler, quoi.
Ah ouais.
Voilà. Pour le coup, c'est pas. D'habitude, ils sont quand même très très moches ces jeux, et celui-là, il est plutôt joli. Et le matos est vraiment sympa, quoi. Donc ouais, vrai petit coup de cœur et contente d'avoir trouvé ça pour pas trop cher. Belle ouais, petite découverte.
C'est encore plus cool.
Voilà, c'est tout chouette. À fait. Et toi, Caducé, à quoi as-tu joué ?
Eh ben, moi, c'est marrant que tu parles de Friedman Friseux, parce que moi aussi, j'ai joué à un de ces jeux tout récemment. Mais par contre, je me suis pas perdue dans une crypte avec une créature. J'ai fait des choses beaucoup plus bucoliques, on va dire. J'ai joué à la marchande avec des légumes du marché, des cochons et des moutons, parce que j'ai joué à Formidable Farm. Alors, c'est un jeu d'échange de ressources. Alors, je pense qu'on peut dire que c'est un jeu de bouiouitage, si on reprend le terme qu'on aime bien ici. Hein.
On peut le dire.
Mais c'est surtout un jeu de course. Donc, en fait, vous allez jouer à être la marchande la plus rapide. Et c'est là que c'est rigolo. Ça joue de 1 à 4. Je vous parlerai un tout petit peu du solo que j'ai pu aussi essayer. Et dans la boîte, on va avoir un gros paquet de cartes qui va représenter des contrats. Et avec à chaque fois un coût en haut et une récompense en bas. Et on aura 5 types de produits de la ferme. Le blé, les concombres, les tomates, les cochons, les moutons. Et ils sont tous représentés par des petits pions figuratifs en bois. Donc ça, c'est plutôt chouette. C'est pas des cubes en bois. On a vraiment la petite forme du blé, des concombres, des tomates, etc. Ça joue aussi sur le plaisir du jeu. On a un petit plateau circulaire au milieu de la table qui va symboliser un hangar parce qu'on va pouvoir s'y approvisionner à chaque tour. Alors, pas avec énormément de ressources, mais ça peut nous faire un petit point de départ. Et après, c'est parti, on va faire des échanges. Et c'est vraiment uniquement ça le jeu, c'est de faire des échanges, parce qu'en début de partie, on va recevoir un nombre de cartes contrat qui va nous être personnel, et le but du jeu, ça va être d'être la première à avoir fait tous ces contrats. Donc quand on joue à deux, vous avez 20 cartes, chacune, et donc la première qui écluse ces 20 cartes a gagné la partie. Donc vous imaginez bien que c'est vraiment des échanges répétitifs. Alors ça peut être vraiment des échanges de tout et n'importe quoi, hein. Des fois on va te proposer d'échanger un mouton contre deux tomates et trois blés. Donc tes tomates et tes blés, tu vas pouvoir les utiliser pour faire autre chose, etc., etc. La seule chose, c'est que tu as toutefois une limite de 3 contrat par tour, et c'est là pour moi que le jeu pêche un petit peu, parce que des fois t'es dans ta frénésie d'échange et tu te retrouves bloqué par cette limite de cartes, et ça c'est un petit peu dommage. J'ai ressenti peut-être une petite frustration par rapport à ça. J'avais vraiment envie de continuer, parce que quand tu vois que tu peux continuer tes échanges avec les cartes que t'as en main, et ben t'as envie d'y aller, quoi. Et autre chose rigolote, c'est qu'en fait, sur ces, on va dire, si on joue à deux et qu'on a nos 20 cartes de départ, les cartes, on n'y a pas accès dès le départ. On va en prendre 3 en main au début de la partie. Et dans les récompenses des cartes et sur le hangar, il y a des possibilités de piocher des cartes, donc depuis votre pioche personnelle pour la mettre en main, pour prendre connaissance en fait de vos futurs contrats. Et ça complique un petit peu les choses, parce que en plus de tes échanges, il va falloir que tu réussisses à piocher suffisamment de contrats dans ta pile pour pouvoir en prendre connaissance et espérer, on va dire, les faire goupiller correctement les uns avec les autres pour pouvoir en placer suffisamment à chaque tour, pour essayer d'être la plus rapide, parce que ça reste vraiment un jeu de course. La sensation de course, tu la ressens bien. Sachant que ces cartes que tu vas valider à chaque tour, donc on a dit un maximum de 3, on les met devant nous face cachée une fois qu'elles sont validées à la fin du tour, et dès le tour d'après, ces cartes-là, elles vont pouvoir être utilisées pour avoir des petits avantages en plus. Ça va vous permettre de prendre une ressource supplémentaire si vous en défaussez 3, ou de récupérer une de vos fameuses cartes de la pioche, pareil, en défaussant 3, etc. Il y a plein de petites choses qui viennent essayer de vous faciliter un petit peu la tâche, si vous goupillez les choses correctement. Et ça, c'est assez chouette. Vous y avez joué, vous, ou pas du tout ?
J'y avais joué à Essen, et ouais. Ça, c'est bien quand ça se goupille bien, mais quand ta dernière carte de ta main que tu découvres tardivement, c'est un échange tout pourri et très compliqué à faire, c'est très frustrant.
Si tu sens que les autres sont prêtes de terminer aussi, ça peut être un peu frustrant. Après, t'as cette petite zone de marché commune qui te permet des fois de débloquer la situation, parce qu'il y a ces cartes au centre de la table qui sont accessibles à tout le monde, et elles vont avoir cet intérêt justement pour essayer de débloquer un peu des fois la situation quand t'as plus que quelques cartes en main, et elles vont toujours en plus venir dans tes contrats validés. Donc tu pourras les utiliser pour les fameux petits avantages que tu peux avoir en plus en les dépensant.
Si ça concorde.
Et moi, j'ai bien aimé ce côté de pouvoir utiliser les cartes que tu as validées, les cartes de contrat qui sont encore utiles, plutôt que de rester en pile face cachée sur la table et te servir à rien, de pouvoir les utiliser pour les avantages, j'ai trouvé ça très chouette. Et le fait de pouvoir faire des échanges en fait assez librement, tu te concentres vraiment que là-dessus. Tu vois, par exemple, t'as pas de limite de cartes en main. Une fois que t'as réussi à les piocher, tu les as en main, et puis t'as pas de préoccupé de limite de cartes. Pareil, t'as pas de limite au nombre de ressources que tu peux posséder. Donc ça, c'est des choses qui te libèrent en fait du temps d'esprit, qui évitent d'avoir des petites règles qui servent à rien et qui te permettent vraiment de profiter uniquement de tes échanges et d'essayer de monter un petit peu tes mécanismes d'échange pour que ça roule correctement et que t'arrives à écluser ça au plus vite, quoi. Ça, j'ai trouvé ça assez chouette. Donc c'est vraiment des parties rigolotes où on va bouibouiter sans se laisser disperser par autre chose que juste le bouibouitage. Et moi, j'ai trouvé ça très satisfaisant, sans prise de tête, sans règles surajoutées. C'était vraiment de l'échange, rien que de l'échange, quoi. Ça m'a semblé assez pur, en fait, comme proposition. Et ça m'a pleinement satisfaite, en tout cas. J'ai vraiment eu l'impression de faire ma petite marchande, là, pendant mes parties. Et c'est assez rigolo, au final.
Ouais, je suis complètement d'accord. J'en ai fait une partie aussi. Et j'ai vraiment aimé ça. Et en plus, j'ai gagné sur un cochon. On a fini nos...
Eh ouais.
Nos contrats en même temps, enfin sur un même tour.
Et oui. Et donc là, c'est en fonction de tes ressources, ouais.
Et ben, c'est le cochon qui m'a fait gagner la partie.
Et tu vois, le solo que j'ai pu essayer aussi, il est assez difficile parce que tu pars avec 30 cartes en main. Donc tu vas avoir à écluser 30 cartes. Enfin, tu pars pas avec 30 cartes en main. Tu as une pile de 30 cartes et qu'il va falloir écluser sur 18 tours de jeu. Et effectivement, c'est assez tendu. Mais par contre, t'as plus de limite au nombre de contrats que tu peux réaliser par tour, et ça, c'est carrément cool, parce que là, t'as des tours où tu vas en faire 6, 7 en fonction de ce que t'as en main, c'est carrément chouette, quoi. Donc t'as vraiment cette frénésie de l'échange que tu ressens en solo, même si les 30 cartes en 18 tours, c'est carrément chaud, quoi.
Ouais, je pense que t'as intérêt à avoir du bol dans la façon dont ça sort, quoi.
Oui, bah bien sûr.
Mais je pense que cette limite de trois contrats, ça vient aussi pour éviter que, et là je reprends ta très jolie expression de tout à l'heure, Lana, que ça en fasse un jeu de vaisselle.
Oui, c'est
possible.
Parce que
si t'as l'autre en face de toi qui cumule ses... Enfin,
et pourtant.
Oui. Voilà, tu tournes les pouces en face et puis ça peut être super frustrant, quoi.
Ouais, nous on a vraiment ressenti cet effet lent de j'attends mon tour et de toute façon je peux rien faire entre enfin jusqu'à ce que ça soit à moi de jouer, et on s'est pas senti bloqué. Par contre, on s'est pas senti bloqué par les ressources, mais on s'est senti bloqué par le temps, on s'est senti bloqué par des cartes qui ne sortent pas et avec des échanges impossibles. Et ah ben, moi, il m'a malheureusement pas fait le même effet qu'à vous. Ben, je suis contente que ça vous plaise.
Ouais, c'était chouette. Et j'ai cherché à voir un petit peu, on pourrait le comparer avec Century. Parce que si on prend Century dans sa version, tu vois, la plus simple, hein, sans aucune extension, là, c'est vrai que t'as, ce que j'ai déjà dit, hein, t'as pas de limite de ressources, alors que dans Century, t'as cette limite à 10. Il y a qu'un seul paquet de cartes. Donc, en fait, tu vois, t'as pas besoin de te préoccuper des cartes points, des cartes marchands. C'est vrai que le côté des pions figuratifs, ils font bien le job visuellement, là, que t'échanges et tout ça. Mieux, à mon sens, que les cubes en bois, même si bon, ça reste du détail, hein, c'est pas ça qui apporte un vrai plus au jeu. Et c'est vrai que, par contre, on ressent un peu moins la hiérarchie des ressources, parce qu'elle alors, dans Century, elle est quand même très présente, puisqu'il y a même des cartes qui te permettent donc d'améliorer d'un cran à chaque fois tes ressources. Et là, ça intervient que sur le nombre de ressources que tu glanes au hangar ou sur le scoring de fin de partie, comme ça t'est arrivé, Elodie, parce que en fin de partie, en cas d'égalité, c'est vrai qu'on va regarder, le cochon va peser plus que le blé. Donc, il y a vraiment que là que ça intervient. Et il y a moins de jeux bloquants aussi, tu vois, dans Formidable Farm, parce que vu que tu dois écluser ta main et pas récupérer des cartes qui te donnent des points, tu risques pas de te faire piquer une carte qui va t'intéresser. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment un jeu de course à l'échange dans son plus pur appareil, quoi. Et je crois que c'est vraiment ça qui m'a plu, de pas être parasité par des micro-règles sans vraiment me préoccuper de ce que faisaient les autres et de profiter de faire la petite marchande, quoi.
Ouais, et quand tu parles des ressources, vraiment du matériel, je pense que c'est des meeples qui existaient déjà dans d'autres jeux, qui ont été récupérés, oui. Qui n'a pas eu un travail fait exprès pour ce jeu-là, parce qu'en termes de taille, oui. C'est n'importe quoi. la tomate, elle est plus grosse que le cochon. Enfin, on est sur... Et puis, il y en a plein, ils m'ont dit, tiens, ça me dit quelque chose. Je pense que ça vient d'un autre jeu. Donc, je pense pour des histoires d'économie, ils ont dû prendre des trucs qui étaient déjà faits ou dans des banques
C'est bien.
ASN, quoi. Bah, c'est très très bien, mais du coup, ça donne un côté un peu foutraque, mais qui va très très bien avec cet auteur aussi. De ces ressources qui sont bizarres parce que tu sens qu'elles sont pas cohérentes entre elles. Je trouve ça assez rigolo, quoi. Et ça rajoute au fait du jeu de la marchande en plus.
Toi qui es spécialiste en illustration, sache que Sylvain Leroy qui a illustré le jeu, c'est aussi celui qui a illustré l'édition française de Seven Yokai.
Ok. Auquel j'ai pas joué.
Au niveau visuel, c'est assez éloigné.
C'est un peu,
je trouve.
Ouais, c'est le grand
que je regarde.
Ouais.
Si...
Ouais. Après, il est pas moche, hein.
Il est pas moche. Les personnages ont une bonne petite bouille. Enfin, je trouve qu'ils ont chacun leur petite personnalité. En plus, ils sont à chaque fois rappelés sur le haut des cartes. Là, tu vois leur petite tête en haut. Mais
un peu désuet, mais c'est plutôt joli. Par contre, l'icono, je trouve qu'elle est pas très.
Alors ouais, c'est peut-être un point noir du jeu.
On a eu beaucoup de retours à la règle.
Ouais. Alors moi, je t'avoue que j'ai imprimé 4 exemplaires du glossaire qui est à la fin. Je les ai plastifiés et comme ça, pour les nouvelles joueuses, chacune a sa petite fiche de rappel plastifiée à proximité et ça évite de se faire trop passer la règle et qu'il n'y ait pas de temps mort à cause de ça et que chacune puisse regarder un petit peu tranquillement à quoi correspondent les icônes. Mais c'est vrai que passer la première partie, après, ça va à peu près. Mais c'est vrai qu'elle peut faire un peu peur, cette iconographie. Ouais. Voilà pour Formidable Farm.
Bah, c'était une sélection formidable, non ?
Formidablement verte.
Bon. Et formidablement
au final.
Oui.
Bon, Lana, tu nous as quand même trouvé un jeu beaucoup plus lourd que les nôtres. Hein. Je pense qu'il y a l'effet diamant d'or se ressent. Hein. Ouais. Nous, on arrive avec nos petits jeux d'échange, de bouiboutage tout simple et de course à la créature. Et toi, tu nous viens avec ton gros jeu de pose de ouvrier, de dés.
Mais on a toutes pris du plaisir à jouer au jeu qu'on a découvert.
Ouais. C'était chouette. Et c'est le plus important.
Très bien. Eh bien, on y retourne. On va jouer.
On y retourne.
Tout à fait.
Allez, jouez bien alors.
Allez. Ciao. Bonne soirée.
Ciao, ciao. Ciao.